Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous interrompons donc la célébration des dimanches du temps pascal pour la solennité de Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France et fête nationale depuis la loi du 10 juillet 1910, faisant du deuxième dimanche de mai la fête de Jeanne d'Arc et du patriotisme, et ce, quelques mois après la canonisation de notre sainte nationale par le pape Pie XI. Je voudrais d'abord vous rappeler quelques éléments de sa courte biographie. Jeanne d'Arc est tout à la fois une sainte et un destin. Comme Saint Louis, sa vie nous est connue par un certain nombre de documents irrécusables, comme les pièces des deux procès, celui devant le tribunal ecclésiastique, qui devait la condamner en février-mars 1431, et le procès de réhabilitation qui se déroula entre 1452 et 1456. Ces deux procès ayant entendu le témoignage de nombreux contemporains de la sainte jusqu'à sa propre mère. Lorsque Jeanne naît, sans doute en 1412, la guerre fait rage entre les deux royaumes de France et d'Angleterre depuis 1337, avec cependant de nombreuses trêves. Pour de délicates questions de succession, le roi d'Angleterre, Édouard III, qui avait déjà des possessions sur le continent, revendique le trône de France. Cette guerre s'accompagna d'une guerre civile, par exemple la lutte entre les Armagnacs et les Bourguignons, sans compter les ravages de la peste noire, qui en trois vagues successives balaya un tiers de la population de la chrétienté. Au début du XVe siècle, le roi de France Charles VII est replié sur Bourges. La Bretagne, la Normandie, les Flandres, l'Artois, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, la Guyenne sont sous domination ou au moins sous influence anglaise. Jeanne naît à Domrémy, dans un village du duché de Lorraine. Fille de paysans aisés, elle entend des voix du ciel qui lui enjoignent de se porter au secours de la ville d'Orléans, sur la Loire, après avoir rendu hommage à Charles VII, celui que l'on appelle le petit roi de Bourges. Elle arrive à convaincre Robert Baudricourt, seigneur de Vaucouleurs, de lui prêter cheval et escorte. Elle traverse tout le royaume pour rencontrer le roi à Chinon. Après avoir été examinée par des théologiens à Poitiers, elle se voit confier un corps d'armée. Elle prend la direction d'Orléans, alors assiégée par les Anglais. Cette ville constitue un verrou stratégique sur la Loire, car si la ville tombe, le roi perdra le dernier rempart le protégeant. Or, la ville est reprise aux Anglais le 8 mai 1429. Par une série de victoires, toutes les villes du Val-de-Loire sont libérées et la route de Reims est dégagée. Charles VII est sacré dans la cathédrale le dimanche 17 juillet 1429. Jeanne est alors avertie par ses voix qu'elle n'en a plus pour longtemps. Elle reprend cependant la tête de l'armée et cherche à gagner Paris, mais elle échoue devant la capitale et doit se replier en Picardie. Le 22 mai 1430, elle est faite prisonnière devant Compiègne. En décembre de la même année, elle est transférée à Rouen pour y être jugée par un tribunal ecclésiastique. Les séances du tribunal d'inquisition, présidées par l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, prélat entièrement dévoué à la cause anglaise, se déroulent en février-mars 1431. Le 24 mai, Jeanne renonce à porter l'habit d'homme et à sa mission, non sans avoir fait appel au Seigneur Pape. Cependant, elle est remise dans une prison militaire alors qu'elle aurait dû être placée dans une prison ecclésiastique. Elle reprend alors l'habit d'homme pour se protéger de ses geôliers. Relapse, elle est condamnée à mort et brûlée vive à Rouen le mercredi 30 mai. Réhabilitée en 1452, un an avant la victoire définitive sur les Anglais, elle est béatifiée puis canonisée au XXe siècle. Vous l'aurez donc bien compris, mes chers frères, la vocation et le destin de Jeanne d'Arc doivent être pour nous tous une grande source d'espérance et de confiance. C'est ainsi que l'ont perçu ses contemporains, comme le note l'historienne Régine Pernoud. Sa vocation est de faire jaillir la nouveauté de l'espérance. Je cite, « Jeanne Lapucelle apparaît bien telle désormais aux yeux des populations lorsqu'elle quitte Poitiers. L'intérêt étonné qu'on lui porte s'est mué en une sorte de dévotion. Le mot n'est pas trop fort. Certes, on attend qu'elle ait été mise à l'épreuve, cette épreuve qu'elle demande et qui sera l'action militaire, la libération d'Orléans. Mais déjà, c'est une sorte d'aura respectueuse qui l'environne. Elle personnifie désormais l'espérance, l'unique espoir, au dire des témoins du temps, que le royaume en détresse ne peut plus attendre que de Dieu. » Quelques années auparavant, le poète Alain Chartier, qui fut toujours fidèle au roi légitime, avait composé une œuvre mêlée de prose et de vers intitulée « L'espérance ». Parler d'espérance en l'année 1420 était une véritable provocation. Et il écrit « Cette dame espérance avait la face riante et joyeuse, le regard haut, la parole agréable. » Et c'est bien ainsi que nous apparaît Sainte Jeanne d'Arc. Elle a parfaitement accompli sa mission, parce qu'elle a été parfaitement identifiée au Christ dans sa passion, témoignant d'une sagesse proprement surnaturelle devant ses juges, quand on peut lire les réponses à la fois pleines d'audace et de sagesse qu'elle leur fait, on doit témoigner de la présence du Saint-Esprit en elle. Et elle a accepté de suivre le Christ jusqu'à la mort et la mort de la croix, obtenant ainsi par son sacrifice, uni à celui du Christ, le salut temporel de sa patrie. Elle a contribué à sauver notre communauté nationale du désastre, de la ruine morale et du désespoir. Permettez-moi de terminer en citant l'un des quelques très grands écrivains catholiques, Charles Péguy, qui met sur les lèvres de Jeanne d'Arc ses derniers mots, qui nous livre tout à la fois le secret de sa vocation et de sa mission, qui nous font communier tous dans une même espérance, celle de la victoire définitive de notre Seigneur sur le péché et sur la mort. Voilà ce que Jeanne déclare sur son bûcher. Pardonnez-moi, pardonnez-nous à nous tous le mal que j'ai fait en vous servant. Mais je sais bien que j'ai bien fait de vous servir. Nous avons bien fait de vous servir ainsi. Mes voix ne m'avaient pas trompé. Pourtant, mon Dieu, tâchez donc de nous sauver tous, mon Dieu. Jésus, sauvez-nous tous à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.